Nos frères aînés, Noémie Marijon.
Nous sommes parvenus à un moment historique où un vrai dialogue, interrompu il y a près de deux millénaires, peut à nouveau commencer. Il ne supprimera certes pas les oppositions ni les différences entre juifs et chrétiens. L'approfondissement croisé de la parole de Dieu fera comprendre avec respect ce que l'Esprit donne à chacun de comprendre et de croire. Chrétiens et juifs se découvriront nécessaires les uns aux autres dans une vision plus vive et plus forte de la grandeur du don de Dieu et de la beauté de la destinée de l'homme. Ces mots, ce sont ceux du cardinal Lustiger, dans un ouvrage qui s'intitule « La promesse ». C'est autour de cette figure du cardinal Lustiger que nous allons discourir aujourd'hui dans nos frères aînés. Pour cela, nous accueillons le père Jean-Baptiste Arnaud. Bonjour. Père, vous êtes prêtre du diocèse de Paris depuis 2007, enseignant au Collège des Bernardins. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Qui est le cardinal Lustiger ?
Alors, c'est une grande question. En tout cas, il fut archevêque de Paris pendant 24 ans. Et avant cela, bien sûr, prêtre, ordonné en 1954 à Saint-Joseph des Carmes pour le diocèse de Paris. Son ministère de prêtre a été facile à résumer puisqu'il a été d'abord aumônier d'étudiants à la Sorbonne dans le quartier latin pendant une quinzaine d'années et puis curé de paroisse à Sainte-Jeanne-de-Chantal pendant 10 ans. Et en 1979, il est devenu évêque d'Orléans puis archevêque de Paris en 1981. Et auparavant, il avait grandi à Paris où il est né en 1926, donc il y a 91 ans, dans une famille juive. Il dit lui-même dans Le Choix de Dieu que vous avez parti d'une famille de juifs français, c'est-à-dire très attaché à ce pays qu'est la France, à l'école de la République, et en même temps très conscient d'être juif et d'avoir été ainsi choisi par Dieu de faire partie de ce peuple élu, ce qui pour lui ne signifiait pas forcément beaucoup de culte ou de participation à des offices à la synagogue, mais bien davantage conscience de faire partie d'un peuple choisi par Dieu, y compris de souffrir pour cette appartenance. Il raconte cela dans Le Choix de Dieu, dans ses années lorsqu'il est au lycée Montaigne, de se faire casser la figure à la sortie du lycée parce qu'il était juif. Il parle aussi quand même de la prière de sa mère, d'avoir cette image-là, d'avoir vu sa mère prier, et puis d'avoir aussi été sensibilisé par sa mère au rite juif, par exemple au pain tressé pour le Shabbat et à des fêtes juives importantes. Et il va ensuite rencontrer le Christ, mais ça c'est peut-être pour l'étape suivante.
Oui, peut-être avant de parler de cette rencontre avec le Christ, c'est un juif français, donc il est aussi, et sa famille est aussi marquée par l'histoire. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu du destin de sa mère.
Et... Oui. Alors, l'histoire, il y a eu un épisode étonnant, puisqu'en 1936 et en 1937, pendant 2 étés, il a été envoyé en Allemagne pour un échange qui l'a aussi, j'allais dire, providentiellement sensibilisé à ce qui était en train de se jouer en Allemagne, à la montée du nazisme. Mais juif français, ça voulait dire aussi qu'on croyait en la France, et c'est mon interprétation, mais je suis pas le seul. En fait, je crois que ses parents ne pensaient pas tellement ne pouvaient pas croire à ce qui allait arriver finalement. Et donc, lui est envoyé en 1940 à Orléans avec sa sœur, et c'est là qu'il va vraiment rencontrer le Christ.
Oui, c'est là qu'il se convertit.
Qui va, oui, alors je sais pas s'il aurait, c'est une question, un débat qu'on pourrait avoir. Je sais pas s'il aurait apprécié le mot conversion. Pour l'instant, gardons-le, parce que c'est le mot de Saint Paul, la conversion de Saint Paul pour un juif devenu chrétien, mais c'est toujours un mot un peu délicat à employer. Est-ce qu'une conversion, est-ce que c'est un accomplissement? Il lit l'Écriture sainte. Déjà, une première fois en 1936, il tombe sur la Bible en entier, et puis en 1939, une deuxième fois, et il lit la Bible en entier. Et il est vraiment
Ancien
et Nouveau Testament. Il est vraiment très saisi par la figure du Christ, du Messie d'Israël, en particulier dans l'évangile de Saint Matthieu, qui ne va pas cesser de travailler ensuite. Et il se dit, ce Jésus, c'est le Messie d'Israël. Et donc, plutôt parler d'un accomplissement plutôt qu'une conversion. Mais bien sûr, ça va changer quelque chose dans sa vie, puisqu'il va aller, en 1940, demander le baptême. On a rencontré l'évêque d'Orléans, Monseigneur Courcou, qui devait être bien impressionné devant un jeune juif de 14 ans demander le baptême. On est quand même en 1940. Et évidemment, la providence étonnante de Dieu fait que Jean-Marie Lustiger deviendra lui-même évêque d'Orléans et se retrouvera dans le même bureau dans lequel il était venu demander le baptême à cet évêque qui devait être bien impressionné, mais qui l'a baptisé le 25 août 1940. Et ensuite, voilà, sa mère, comme beaucoup de juifs français, a été déportée et est morte à Auschwitz, à Birkenau, en 1943, dans une vague très massive de déportations et de beaucoup de juifs qui ont été tués à l'arrivée dans le camp sans même rentrer, sans même séjourner au camp en 1942. et en 1943.
Alors au moment de ce baptême, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant qu'on retrouve dans la Bible. Il y a un changement de nom, un changement de prénom. Ou alors, quelle est l'histoire du père Lustiger avec son
nom? Il faut que je vous raconte une autre histoire. Pour bien comprendre le baptême, il a reçu une grâce très particulière le jeudi saint 1940. Il la raconte dans Le choix de Dieu. Moi, c'est vraiment le passage décisif. Et il rentre dans la cathédrale d'Orléans parce que pour rentrer chez lui, ça faisait un petit raccourci. Et il voit cette cathédrale d'Orléans qui se prépare à célébrer le jeudi saint. Et donc, il avait lu la Bible en entier. Et là, il reçoit une grâce de Dieu, vraiment. Une grâce, j'allais dire, ce qu'on appelle dans les exercices spirituels de Saint Ignace, une grâce sans cause. Il reçoit tout d'un coup, il est saisi, touché par la grâce. C'est Jésus qui vient le rejoindre. En réalité, ça se fait en deux temps. Le jeudi saint, il est impressionné par tout ce qui se passe de préparatifs, de fleurs, comme on l'imagine dans nos églises le jeudi saint. Et puis il repasse le vendredi. Et c'est le vendredi que il est saisi par ce vide. Le vendredi saint, l'église est dépouillée. Et là, il comprend intérieurement que ce Messie, ce Jésus qui meurt le vendredi saint, eh bien, est solidaire de son peuple. Bien sûr, je ne sais pas très bien ce qu'il peut s'imaginer ou réaliser à ce moment-là de ce qui est en train de se jouer pour le peuple juif, mais sans doute le pressent-il quand même par ses deux séjours en Allemagne et puis par ce qu'on commençait à entendre. Mais en tout cas, déjà, il relie et il repense à toutes les persécutions du peuple d'Israël racontées dans l'Ancien Testament et vécues dans l'histoire. Et il se dit, ce Jésus qui souffre, ce contraste si incroyable, si étonnant entre la joie du jeudi saint et la douleur du vendredi, et le vide surtout et l'absence, eh bien, le fait entrer dans le mystère du Christ souffrant, du serviteur souffrant qui donne sa vie à la fois d'une manière, ignoble et en même temps lumineuse parce qu'elle nous sauve. Et il va toujours garder ce mystère-là du vendredi saint. On s'est parfois demandé, est-ce que c'est vraiment le vendredi saint qui est son lieu? Je crois aussi que c'est le vendredi saint, mais le vendredi saint, non pas comme un lieu triste ou comme un jour sinistre, mais comme le jour de l'amour et du pardon. Et dans sa mort, Jésus nous sauve et nous pardonne. Et il comprend que ce Jésus, c'est le Messie d'Israël qui souffre avec son peuple et qu'on ne peut jamais séparer la souffrance du Messie des souffrances de son peuple. Cette grâce, elle sera comme confirmée 11 ans plus tard, en 1951, lors de son premier pèlerinage en Terre Sainte, jeune séminariste, c'est 3 ans avant son ordination, il entrera au Saint-Sépulcre et où là, on peut dire que il a reçu une confirmation d'une grâce de la résurrection du Christ, mais avec le même vide, c'est-à-dire dans le sépulcre, dans le tombeau du Christ à Jérusalem, devant ce vide, il se dit, si le Christ est bien mort et ressuscité pour moi, alors c'est là que ma foi se fonde dans ce mystère du tombeau de Jésus, du passage du vendredi au samedi saint, de la nuit de la mort à la nuit de la résurrection. Et c'est là, et il pose son front sur la pierre en disant, c'est soit je m'en vais parce que tout cela est vain, soit ma vie est consacré à Dieu. C'est important parce que, évidemment, le choix de ses prénoms aussi est aussi lié à cette expérience spirituelle l'apôtre Jean qu'il va assumer avec cette figure de la Vierge Marie au pied de la croix, Jean et Marie au pied de la croix. Il explique lui-même dans la plaque qui est apposée à la cathédrale Notre-Dame, j'ai voulu qu'une plaque soit mise sur un des piliers à pas très loin du cœur de Notre-Dame de Paris, où il explique ses prénoms. Il a voulu garder Jean, Marie, Aaron, Lustiger. Je suis né juif et je le resterai. Et il explique le sens qu'a pour lui ce prénom de l'apôtre, de la Vierge Marie, du grand prêtre Aaron. Il s'est inscrit dans cette filiation-là, au fond, comme juif, comme baptisé, disciple de Jésus, comme prêtre et comme évêque. Comme évêque, il devient successeur des apôtres qui étaient juifs. Et donc, c'est pour ça que son élection à l'épiscopat est intéressante et que, au fond, elle correspond aussi au moment où il va assumer publiquement le fait qu'il est juif et qu'il entend bien le rester.
Il a révélé son histoire et ses racines juives que à partir du moment où il devient évêque.
Oui, où il devient même archevêque de Paris. Il écrit un article. Quand vous interrogez des témoins de la période précédente, lorsqu'il était curé de Saint-Jean-de-Chantal, les gens ne le savaient pas. Très, 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 très peu, très, très rares étaient ceux qui le savaient. Au moment des attentats de 1980, des attentats de la synagogue de la rue Copernic, je crois qu'il avait commencé, il était évêque d'Orléans, mais il est interrogé sur une radio française où si j'ai bonne mémoire, il commence à distiller peut-être un peu des choses, on peut s'en douter, mais c'est vraiment comme archevêque de Paris qu'il va décider de l'assumer. Moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment significatif. Et c'est au moment où il devient apôtre, successeur des apôtres, mais donc apôtre, c'est-à-dire à la fois chargé d'une mission qui est bien plus large que celle de sa paroisse, une mission, on pourrait dire, universelle, puisque les évêques forment un collège, le collège des évêques, associé, autour du Saint-Père, lui-même évêque de Rome. Donc cette mission, elle est universelle, il porte l'Église, mais en même temps, elle rejoint sa singularité la plus profonde. Il est juif, fils d'Israël, et au fond, c'est à ce moment-là qu'il était mûr pour le révéler publiquement. En 1979, lorsqu'il donne la retraite de la promesse, eh bien, c'était pas du tout destiné à être publié. Et dans la confidence des sœurs du Bec-et-Loin, on peut comprendre que quelque chose de judaïsme, mais c'est vraiment comme archevêque de Paris qu'il va l'assumer.
Père Arnaud, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du rôle de Jean-Marie Lustiger dans les relations judéo-chrétiennes, et notamment auprès du pape Jean-Paul II?
Ce rôle, il est immense. Ce serait difficile de le dire en quelques mots, mais ce qui est sûr, c'est que il a été donné providentiellement à l'Église pour favoriser ce rapprochement qui a été vraiment, en tout cas, qui, on pourrait dire, dont le Vatican II est une pierre si fondamentale dans Nostra Aetate, cette amitié, cette reconnaissance, ce dialogue entre le peuple juif et les chrétiens. Il me semble que et Jean-Marie Lustiger et Jean-Paul II, chacun à leur manière et selon leur histoire, ont été donnés à l'Église au même moment, au fond, pendant ce quart de siècle, pratiquement, pour faire avancer cela. La famille de Jean-Marie Lustiger était originaire d'une petite ville en Pologne, à côté de Wadowice, qui est la ville natale de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II lui-même a été très marqué par ses amitiés avec les Juifs dans une Pologne qui était déjà très, évidemment, marquée par le nazisme avant la Seconde Guerre mondiale et ensuite encore après, dans l'accompagnement, on pourrait dire, dans cette fidélité au peuple juif après la guerre et après la Shoah.
Eh bien, merci beaucoup, Père,
de
nous avoir fait découvrir cette figure du Père Jean-Marie Lustiger. Nos remerciements vont également au Collège des Bernardins et particulièrement à Nathalie Moisan qui nous a accueillis aujourd'hui. La semaine prochaine, dans Nos Frères Aînés, on change d'univers puisque nous parlerons des langues de la Bible avec Madame Claire Placial. Bonne journée à tous, à l'écoute de RCF.